Ah, t'es bien content de le voir. Notre chroniqueur de Star Academy est en studio.
Voyons. Culturel, mais juste pour Star Academy.
C'est-tu la bonne qui a gagné, David Chabot? C'est-tu la bonne qui a gagné hier?
Parle-nous de ça, on n'a pas suivi.
La
nous,
fille
là.
De Québec, là, 16 Mia. Ans, Mia.
Sérieusement, je suis complètement déconnecté.
Mais voyons donc, toi, t'as pas vu ce qui s'est passé hier. Moi, je pensais que c'était comme la Troisième Guerre mondiale qui commençait sur les réseaux sociaux. J'étais super excité. Voyons qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, je me suis aperçu que TVA a un fuck de programmation juste au moment où il devait annoncer la gagnante, parce que c'était deux filles, les finalistes. Ben ça a coupé. Il y a une pause qui est partie, puis ils sont jamais revenus en même.
La guerre, toi, ces réseaux sociaux.
Ces réseaux sociaux, c'était l'enfer.
C'était qui va avoir la tête à Papineau, là?
Mais c'était pas pire que coït interrompu.
Là. Vraiment. Fait que là, j'ai spoté tous mes chums là, qui sont pognés pour écouter Star Academy avec leur blonde pour avoir du sexe après. Là.
Attends. Il y a pas du monde qui disent qu'ils sont obligés.
David, Chabot, on va enlever le crochet que j'avais fait. Là, visiblement, tu l'avais pas écouté.
Non, hier, c'était Love on the Spectrum qui était à la télé. Là.
Ah oui?
C'est tellement bon.
Ah, c'est bon.
C'est quoi ça?
C'est un genre de télé-réalité de dating de personnes qui vivent sur le spectre de l'autisme.
OK. Puis t'écoutes ça avec ta conjointe?
Oui.
T'as-tu vu l'un des participants qui a rencontré Jack Black?
Non, ça, je l'ai pas vu, non.
Ah, mon Dieu, que c'est bon. Allez voir ça sur les réseaux sociaux.
OK, c'est pas dans la série, là, c'est comme à part. Là.
C'est à part, il est invité sur le talk show, puis tu vois, bon, lui, son autisme se caractérise d'une manière, mais il y a aussi, pas une fixation, mais un fanatisme concret envers Jack Black, puis il dit un jour, je vais le rencontrer, puis il se met des étapes, lui, dans la vie, puis une de ses étapes, c'est avant tel âge rencontrer Jack Black, mais ils font la surprise.
OK. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder ça? Hein? Tu sais, moi, l'amour est dans le prix, j'ai entendu parler, je vais me regarder ça.
T'aimerais ça, le pire, tu rirais, toi.
L'épisode des camionneurs avec PA Méthode, là, pour qu'ils se rencontrent, là, les camionneurs et les camionneuses. Bon, je trouvais ça intéressant le principe, mais j'ai jamais écouté ça non plus.
Mais c'est juste de voir la réalité des gens qui vivent sur le spectre. Puis, tu sais, il y en a qui sont quand même assez loin là, sur ce spectre-là. Puis de voir comment ça réfléchit. C'est quoi la réalité avec la famille? Comment ça s'explique? Tu sais, le bout de dating, puis tout, OK, là, mais tu sais, moi, c'est ce volet-là qui m'intéresse.
La vision psychologique de tout ça, tu sais, l'amour, c'est quoi pour eux? Comment est-ce que c'est tangible ou pas dans leur vie?
Finalement, ma game du Canadien était pas mal plus intéressante que votre soirée d'hier.
Ben écoute, moi je
on est comblé.
J'ai suivi ça, je suis ça aussi distraitement.
Oui.
Pour faire des choix.
OK. Hey, David.
Oui.
Bon, tu sais que moi je suis un boursicoteur comme disait l'autre.
Oui, ton accent de Tesla comme un cavale.
Et ben aujourd'hui,
à 5 minutes un peu. Hein.
Aujourd'hui, ça va pas super bien, mais écoute, j'étais excité, je vais juste le rouvrir là, pour être bien sûr de ce que je te dis parce que la bourse, on le sait, ça change à chaque seconde. J'ai fait un peu d'argent aujourd'hui à une seule place. Ah non, c'est pas vrai. J'ai fait un peu de sous avec Amazon, mais l'autre place, c'est Lion Électrique.
Ben, c'est un beau placement, ça.
Ben, quand même.
Quand tu mets la moitié de ton portefeuille une année là-dedans, par exemple, puis que ça crash.
Ça a monté d'une scène, David.
Mais est-ce que tu considères que comme contribuable, tu as des actions là-dedans ou t'en as vraiment acheté? Là?
Il en a vraiment acheté puis il a perdu.
J'en ai acheté. Mm-hmm. J'en ai acheté.
T'as jamais entendu ça, il le dit à tout le monde.
Check mon coût d'acquisition moyen, là, 23 et 22. Puis je n'avais acheté 50. Je ne les ai toujours pas vendus, soit dit en passant, là, parce que je pense qu'un jour, ça va remonter. Mais je n'avais acheté 50, puis là, j'ai fait à peu près une scène aujourd'hui.
Ouais. Une scène fois 50, ça fait toujours bien 50 cents?
Oui, exact.
Man, c'est avec des 50 cents qu'on fait des pièces.
Sauf qu'il dit, j'ai fait du profit aujourd'hui. Moi, je l'ai regardé et j'ai dit, t'as rattrapé une scène.
Mais j'aime son optimisme.
Oui.
Mais sinon, tout est au rouge.
Il regarde ça là, vraiment, vraiment souvent, plusieurs fois par jour.
Je devrais pas.
Non. T'es exactement ce que tu devrais pas être.
J'ai racheté à matin tout. Puis après ça, 2-3 heures plus tard, j'ai regardé. Puis ce que j'avais mis, je l'ai reperdu.
Ah, et plus.
Et plus. J'ai perdu 200-300 piastres de différence.
Par rapport à ce que j'ai mis à matin.
Ben oui.
Comment tu vois ça, toi, sans donner de conseils ou autre, même si tu peux
Je ne suis
commencer.
Pas planificateur financier.
Exact. Non.
Mais Warren Buffett disait, tant que tu n'as pas vendu, tu ne le perds pas.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Puis il faut que tu investisses pour 3 ans, il faut que tu investisses pour 5 ans. Fait que c'est ce que je fais. Fait que là, j'achète à rabais. Le problème, c'est que les rabais, ils apparaissent sur le produit que j'ai acheté la semaine d'après, c'est encore moins cher.
Ouais, c'est ça.
Oups. Ouais, mais en même temps.
Ça va-tu s'arrêter à un moment donné, ça? Bon, fait que tu t'es penché là-dessus, toi, les fameux crash boursiers. On peut-tu appeler ça un crash actuellement?
Ouais, c'est, mettons, une grosse correction, à mon sens, là.
Oui,
mais, une correction financière.
Oui, c'est cela. Mais j'ai deux affaires, deux volets. Celle-là, c'était juste parce que j'étais curieux. Je me suis fait poser la question par un chum. Est-ce que les marchés ferment? Puis y a-t-il une mécanique déjà définie d'avance quand c'est des matins comme ce matin là, où tout est en rouge? Là?
On l'avait vu en pandémie pourtant? Ça a fermé. Ils ont fermé à un moment donné.
Il y a des journées comme ça. Là. Le 11 septembre, ça avait fermé pour des raisons évidentes. Là, mais dans le fond, là, il y a comme trois niveaux. Là, ça s'appelle un disjoncteur de marché. Là, je ne sais pas comment le traduire exactement en français. Puis automatiquement, quand le marché a perdu 7%, il ferme le marché pendant 15 minutes, peu importe à quelle heure, là, avant 3h30, je devrais dire. Après ça, s'il y a un autre baisse jusqu'à 13% de mémoire, il referme le marché pour un autre 15 minutes. Puis après ça, si t'es rendu à 20% et plus de perdu dans une journée, il ferme pour la journée au complet. Fait que ça, c'est, dans le fond, là, cette mécanique-là a deux intentions. Premièrement, c'est que des fois, quand ça part à galoper, comme c'est le cas en ce moment, puis ça va être mon deuxième point, à savoir est-ce que le fondamental est affecté ou pas sur le marché en ce moment, là, mais quand ça part à galoper, là, ça finit que c'est un effet de masse, puis là, les gens vendent parce qu'ils vendent, puis ils ont peur, puis bon. Fait que là, ça, c'est le premier volet du pourquoi ils mettent des disjoncteurs.
Mais qui vend, là? Je comprends pas les gens qui vendent actuellement.
Des gens qui, probablement, leur retraite s'en vient, puis ils voient qu'ils arrêtent pas de perdre d'argent, puis leur perspective de 5 et 10 ans de plus vient de crasher. Ouais, tu sais, toi, encore du temps devant toi.
Merci, Pascal, je me sens plus jeune.
C'est la première fois que je te fais sentir jeune. Ben,
Yann, lâche pas, t'as du temps.
Mais tu sais, moi, je vois ça descendre, là, je vends pas, là, tu sais, genre, je suis en position d'achat. C'est juste que, tu sais, si j'achète mon papier de toilette avec un deal de 2$, la semaine d'après, il y a un deal de 6$ dessus, j'ai l'impression de m'être fait avoir un peu. Ouais. Mais à un moment donné, tout ça, ça va remonter, David.
Ben là, je peux pas te le garantir dans ma posture, mais tu sais, la moyenne historique, mettons qu'on prend le SP500, là, c'est 7% de rendement par année. Fait que là, si ça crash de 25% dans l'année, mais l'autre après, les années précédentes ont été super payantes, là, si on veut, là. Donc, à un moment donné, ça finit par se moyenner. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu aies une stratégie long terme. Mais tu sais, c'est les émotions là-dedans. Elle m'a donné un exemple moi-même que j'ai vécu il y a longtemps, le crash de 2008. Je regardais ça, puis bon, je m'étais intéressé vers le secteur des casinos à Las Vegas. Puis il y en a un qui s'appelle LVS, là, c'est Las Vegas Sands. Puis ça valait 125$ avant le crash, puis là, ça avait descendu comme à 4$, 4$5. Fait que là, tu te dis qu'il fait pas pire rabais. Puis là, j'étais pas allé trop dans les états financiers, j'étais pas dans les fondamentaux, mais tu sais, logiquement, je me dis, c'est sûr que ça a pas perdu 30 fois sa valeur. Fait que là, j'en achète, tu sais, puis pas un gros montant, là, à ce moment-là, j'avais pas trop de sous. Mais mettons un 2000$, puis là, ça swing un peu, fait 100$, perd 100$, c'était une période super volatile, puis à un moment donné, je me dis, timer le marché, je vais le vendre quand j'ai fait comme 1%, puis je vais le racheter quand ça va avoir perdu, tu sais, un genre de day trading. Là. Mm-hmm. Finalement, je me suis pété à gueule avec ça, dans le sens que j'ai fait un petit peu de rendement, mais pas tant que ça, je suis passé sur d'autres choses dans ma vie, puis là, mais maintenant, l'action, j'ai pas checké récemment, mais elle est remontée à 125$.
Exactement ce que Warren Buffett mentionne.
Ben, c'est ça, moi, je suis de l'école maintenant, Warren Buffett, puis Benjamin Graham, où ce que tu dis, tu regardes les fondamentaux de la business, puis tu dis, est-ce que c'est une business qui va faire de l'argent. Puis si elle fait de l'argent, est-ce que c'est un bon investissement à long terme dans son modèle d'affaires? Mm-hmm. Si la réponse est oui, mets ça là-dedans puis regarde la pub pendant 20 ans.
Warren Buffett, un des hommes les plus riches des États-Unis, vieille maison, vieille voiture, vieux linge, vieille femme. Bon, ça allait bien jusqu'à temps que j'arrive là, mais c'est un bel exemple. Oui. Tu ne touches à rien.
Mais est-ce que tu peux être... complètement, parce que fanatique, c'est trop fort. Mais est-ce que, mettons, toi, tu te bases beaucoup sur cet homme-là, OK? Tu te dis, moi, j'aime son modèle, il a réussi. Je veux dire, on serait niaiseux de dire que non. Mais est-ce que vraiment, avec l'économie, tu peux te calculer en fonction de la réussite de quelqu'un d'autre?
Bien, lui, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il fait ça, là, puis peut-être même plus longtemps, je me souviens plus combien de temps qu'il fait ça, mais son track record en bas français est excellent. Là. Il y a un rendement largement au-dessus du marché en moyenne depuis tellement longtemps. Fait que j'imagine que sa méthode ne doit pas être mauvaise. Mais tu sais, lui, c'est autre chose. Là. Il achète des business au complet pour les restructurer.
Il magasine beaucoup à rabais. Là, actuellement, il est en mode acquisition.
Il achète.
Lui, il est chez Jean Coutu. Il voit des étiquettes rouges partout puis il achète toutes les étiquettes rouges en sachant très bien que ça va augmenter à un moment donné. Mais c'est-tu dans 6 mois que tu as besoin de ton argent? C'est-tu dans un an? Ça va peut-être prendre 5 ans?
Mais c'est ça l'autre point que je voulais te parler par rapport à ça. Tu sais, des fois, ils appellent ça des flash crash, là. Fait que tu sais, des crashs rapides, là, que d'un coup, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est une correction qui est comme imprévue. Puis là, il y a un mouvement de marché, puis ça se replace, puis ça baisse, mettons, de 10% à un mois, mettons. Là, tu te dis, OK, il s'est passé quelque chose, je sais pas trop, les gros investisseurs ont bougé. Mais les fondamentaux économiques n'ont pas bougé. Mais quand tu arrives dans des situations comme en ce moment, là, tout le monde a peur parce que l'économie à sa racine même, dans le fond, est attaquée en ce moment par... Puis là, je veux pas partir dans une rhétorique anti-Trump, c'est juste que casser les accords de libre-échange ou en tout cas au moins augmenter beaucoup les tarifs, ça joue beaucoup sur le modèle d'affaires des entreprises. Puis c'est pas vrai qu'ils peuvent se repositionner rapidement. Ou s'ils le font, ça va coûter des milliards souvent. Donc là, ça attaque directement la profitabilité de l'entreprise. Parce que c'est pas exactement tout le temps ça, mais le prix de l'action en bourse, c'est basé sur la perspective de rendement de l'entreprise à long terme. Puis là, il y a un multiplicateur par rapport à ça. Là, on appelle ça le ratio prix, price earning, prix revenu. Je ne sais plus comment en français, là, mais c'est comme un espèce de ratio entre le prix que tu as payé puis le profit que tu as cette année-là. Okay? Fait que là, tu pourrais avoir un price earning de x10, qui veut dire que tu as acheté l'action à 100$ puis elle a fait 10$ de profit tu sais, en proportion, tu me suis? Donc là, plus le ratio est élevé, plus tu dis, mais là, moi, je pense que dans le futur, elle va valoir cher, parce que dans le futur, elle va faire de l'argent, cette entreprise-là. Alors que quand il est plus bas, ben là, tu te dis, OK, il y a déjà quand même un bon niveau de revenu, ça va bien, ils font une belle profitabilité, puis j'achète le modèle aujourd'hui. Fait que là, quand tu attaques des entreprises comme Tesla, Amazon, Apple, qui ont un modèle basé sur les échanges globaux, soit qu'ils font produire ailleurs ou qu'ils font vraiment comme de la vente internationale, là, tu attaques directement la ligne du profit dans le bas, puis là, tu attaques justement la valorisation en bourse, puis c'est ça qui se passe en ce moment-là.
Oui. T'as-tu l'impression que les hommes et les femmes d'affaires vont apprendre de ce qu'Elon Musk a fait? C'est-à-dire de se lancer en politique en ayant des si grandes entreprises comme ça?
Je te dirais que là, c'est sûr que c'est l'exemple le plus frappant de l'histoire, d'après moi. J'ai pas fait de la recherche, mais d'après moi, c'est l'homme le plus riche et le plus influent qui s'est lancé avec le plus de conséquences. Mais c'est un fondamental.
Il n'y a rien à perdre, lui.
Ben, c'est ça, lui, il s'en fout un peu parce qu'il est rendu à l'étape, on s'en parlait la semaine passée, de la pyramide, il est rendu dans l'influence en haut.
Oui, puis non, il s'en fout un peu. Là, je ne sais pas s'il s'est fait démissionner ou si c'est lui qui a démissionné, mais là, d'ici quelques semaines, il devrait quitter la Maison-Blanche.
Oui, ben, il peut juste avoir un shérif en ville. Hein. Ben, visiblement, il y en a un qui a le toupet orange, puis l'autre, il a peut-être un peu trop d'hyperactivité.
Il y a le gros orange, peut-être écœuré d'avoir des morveux autour de lui, là aussi. Là.
Ben, c'est parce que, tu sais, il est arrivé. Il y a beaucoup de respect pour les hommes d'influence puis de pouvoir, là, oui. Les riches. Là, ben, à un moment donné, quand tu l'as dans tes culottes à tous les jours, puis que tu es obligé de rattraper des balles que l'autre a faites parce qu'il comprend pas la machine.
Exact.
Ben, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le Dodge, là, ou je sais pas comment on dit ça, le Dodge.
Ouais.
Parce que c'était Musk. Le Dodge, c'était Elon Musk. Fait que là, tu donnes ça à qui d'autre? Puis est-ce que ça va avoir le même impact? Parce que lui, il arrivait, puis là, c'est la méthode Twitter, bing-bang, je casse tout. Là. À qui tu donnes ça pour avoir autant d'impact puis avoir quelqu'un qui a autant de renommée, dans le fond, à la tête de ça? Là? La question est pertinente.
Oui, mais est-ce que, parce que, tu sais, à plus petite échelle, mettons à Québec, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui voient un peu ce qui se passe du côté des États-Unis? Puis, ah, ben ça se peut que, tu sais, mais mon désir de la mairie... Mettons que c'est moindre maintenant comparativement à avant où j'aurais peut-être aimé être capable de diriger mes propres affaires. Tu sais, Patrick Paquet est à la ville de Québec, mais c'est un gars qui a des entreprises privées aussi, puis ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. C'est un modèle qui fonctionne bien. Mais un gars comme Elon Musk, visiblement, ça a fait crasher son affaire. Tu sais, à grandeur de la planète, il y a des manifestations anti-Donald Trump puis anti-Elon Musk puis pro-trans en fin de semaine. C'est à Montréal. Mm. Un couple d'immigrés qui se sont achetés une Tesla. Ils ont travaillé extrêmement fort. C'est des gens qui font le ménage. Ils sortent de leur entreprise où ils faisaient le ménage. Puis leur Tesla est incendiée, là, est vandalisée. Je veux dire, ça a poussé des gens à devenir complètement fous. Mmh.
Ça, c'est inacceptable. Peu importe ta position politique, là, de vandaliser le bien des autres, là, même si c'est celui que t'aimes pas, là, ça passe pas. Là,
mais qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que si tu veux t'acheter un char, t'es sur l'île de Montréal, tu veux t'acheter un char électrique, tu dis, m'en prendre une autre compagnie que Tesla.
Ben, rendu à Montréal, par contre, tous les chars se font voler. Fait que rendu là, t'as pas de char.
Ouais, mais c'est juste...
En fait, blague, mais c'est peut-être des gens qui sont aussi du même côté que les vandalistes. Les vandales là, qui ont tout égraffiné. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui ont acheté des voitures Tesla avant même qu'Elon pète une bulle.
Ouais.
On savait qu'il n'était pas nécessairement hermétique à bien des affaires.
Je comprends.
Puis là, le problème, ça fait rien avancer de toute manière. Puis ça fait monter les assurances, ça fait monter plein d'affaires.
Amir Kadir, il regrette sa Tesla. Hein? Je sais pas si tu as vu ça. Là.
Ouais.
Ça fait une drôle de posture. Là. Lui, il a acheté ça pour l'environnement. Là, finalement, oups, il se retrouve à être dans mauvais côté d'histoire. C'est un peu ça. Je pense pas qu'il va mettre le feu dans son char. Là,
il se retrouve dans manifestation, mais quand il revient à la maison, il est dans sa Tesla.
C'est ça. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que si tu runs pour être élu, puis tu es élu avec un vote légitime, c'est pas la même position que si tu es un conseiller comme en ce moment ou ce que tu n'as pas été élu. Puis c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Là, on ne défait pas le système pour autant, mais quand tu arrives, tu te colles à une personne qui est quand même assez controversée pour Donald Trump, puis en plus, tu amènes toi-même une plateforme controversée, puis tu n'es pas élu. Là, les gens disent, t'as peu.
Moi, j'espère que c'est de ça qu'on va apprendre. Parce que quand on a vu là, le discours électoral de Trump après son élection, je me rappelle, j'étais. Bon, peut-être problématique, mais je me rappelle, j'étais où.
T'as toujours été problématique.
Je me rappelle, j'étais où, il était quelle heure, s'il faisait soleil ou pas, parce que tout ce que je voyais en avant, c'est un shit show de gens avec un certain pouvoir économique qui se sont placés dans une position politique et qui invitent leurs amis à gérer des choses extrêmement sensibles et fragiles. Puis moi, c'est de là que j'espère qu'on va apprendre. Pas juste les hommes et les femmes d'affaires qui veulent stepper dans la pyramide en se disant, moi, côté portefeuille, je suis clear, mais je veux aller chercher un peu de pouvoir là où je suis capable. Mon ami vient de se faire élire comme étant peu importe quelle position politique, mais j'espère qu'on va apprendre de renforcer des lignes dans la Constitution, dans les règlements politiques pour pas que ce soit n'importe qui adhère à des postes extrêmement important, avec aucune compétence.
Mais je suis quand même surpris de la tournure des événements, parce que d'après moi, personne n'anticipait ce qui se passe maintenant, là, dans le sens que sa plateforme à Trump a toujours été isolationniste, mais à ce niveau-là, parce que tu sais quand toutes les grands, on va les appeler les oligarches, là, Zuckerberg, Bezos et autres étaient là à l'inauguration, le premier mandat de Trump, là, économiquement, ça avait été très bon. Là. Mm-hmm. L'économie allait bien. La gestion de l'État, c'est une autre affaire, puis le climat social. Mais d'un point de vue purement économique, Trump a été un super bon président. Fait que là, ils se sont dit, crève, on leur passe à la caisse. Puis là, en plus, il est là dans son discours du Golden Age, puis là, tout le monde va être riche, puis tout ça. Fait que là, ils se sont collés à ça.
Auprès des gens qui étaient encore fortement impactés psychologiquement et financièrement du crash de 2008, là. Les Américains là, sont marqués de ça. Pourquoi il a été élu la première fois, Donald Trump? Pose des questions à des gens, mettons, démocrates qui ont voté républicains à ce moment-là. Il y en a beaucoup, c'est un trauma financier de ce qu'ils ont vécu.
Oui, ils voulaient revenir à un niveau de richesse américaine moyenne élevé. On en a déjà parlé, là, le bon vieux col bleu qui travaillait fort à Pittsburgh dans les usines d'acier, puis il n'y a plus ça. Là. Fait que là, il y a cette nostalgie-là du premier mandat, puis c'est ce qui l'a ramené au pouvoir maintenant. Mais là, il va dans une traque totalement différente, puis... T'sais, au fond, là, l'isolationnisme, là, jamais je vais défendre ça, mais je pense que l'erreur de Trump, c'est d'aller dans une direction qui, je la crois pas d'accord, mais qui va trop vite. Il va trop rapidement à
la
même place.
Es-tu content de la pression? Es-tu conscient de la pression qu'il y a actuellement avec toutes les promesses qu'il a faites? Je vais vous régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine en moins de 24 heures. Je vais vous régler le conflit entre Israël puis le Hamas en moins de 24 heures. Je vais faire ci, je vais faire ça. Les États-Unis vont redevenir... Ils vont reprendre la grandeur des États-Unis. Es-tu conscient de ça ou il est juste totalement absent? Parce que ça doit être tough, là, David, quand il y a des gens qui sont autour de toi, sont plus éduqués que toi en la matière, ils te disent « Non, Donald Trump, tu fais erreur de t'en aller dans ce sens-là. » Puis lui, il est obligé de dire « Non, 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 moi, je m'en vais. » Ça doit être tough, là.
Oui, oui, mais non, parce que j'ai l'impression, puis là, je le connais pas personnellement, OK? Fait que là, c'est ma lecture de. Ben, d'abord, des lectures que j'en ai faites, des mémoires des gens qui ont travaillé avec lui, puis tout ça.
Ben, écoute la télé, là, au Canada, aux États-Unis, tout le monde dit ce qu'il est en train de faire là, ça va nous mettre dans le trou pour une couple d'années. Là.
Ce qui arrive, c'est qu'un gars qui réfléchit comme lui, ça se dit, si dans ma logique interne, ça se peut ce que je te dis, puis que moi, je suis un homme très intelligent, parce qu'il l'a déjà dit verbalement souvent, ben c'est sûr que c'est la vérité. Pis si les gens autour me disent l'inverse, c'est parce qu'ils ont tort. Parce que moi, dans ma logique interne, ça se peut ce que je te dis là. Fait que c'est un peu la même dynamique que les conspirationnistes. Là. Je veux pas trop m'éparpiller là-dedans, mais tu sais, quand tu crois vraiment que la Lune, elle n'existe pas, là, parce qu'il y a des gens qui pensent que la Lune, là, c'est une projection holographique, là c'est vraiment à l'extrême de la conspiration, mais ils se trouvent une logique là-dedans, puis ils te l'expliquent leur logique, puis pour eux autres, ça fait du sens. Puis après ça, quand tu te fermes aux faits, ben là, t'es embarré, fermé à double tour pour longtemps.
Puis dans le parcours psychologique de Trump aussi, tu regardes des reportages, il y en a un super bon en passant sur Netflix et autres qui s'en vont questionner tout l'entourage de Donald Trump à travers les années, que ce soit en business, en famille ou en ami. Il y a quelque chose aussi qui le définit, il n'y a pas de conséquences. Il y a eu très peu de conséquences qui normalement sont données à des quidam qui posent les mêmes gestes en affaires ou au personnel que Donald Trump. C'est sûr qu'à un moment donné autour de toi, l'épée de Damoclès qu'on a tous, nous, en se disant, si on pose un geste qui n'est pas conforme à ce que la société établit, on va être puni peu importe comment, là. Mm-hmm. Et il la ressent plus.
Ouais.
Il est teflon.
Mais tu sais, ce qui m'inquiète un petit peu quand même là, dans le mandat, c'est pas tant... Tu sais, tout ce qui est économique, d'après moi, ça va finir par se placer. Je pense pas que dans son équipe au complet, ils vont rester dans les tarifs longtemps puis que là, toutes les conséquences économiques. Moi, ce qui me préoccupe, c'était le deuxième sujet que je veux parler, c'est avec les négociations avec l'Iran. C'est la première fois que j'entends Donald Trump utiliser la perspective d'une intervention militaire pour atteindre un but dans une négociation. Fait que là, tu sais, je sais pas si tu l'as suivi un peu, ce dossier-là.
Ben, en fait, il l'a fait pour différentes parties de ce qu'il mentionne. Je veux dire, il y a un gros lopin de terre là, par là-bas. Là. Puis il a dit qu'il excluait pas une intervention militaire à un moment donné. C'était pas la première fois. Là.
Ouais, ben.
Le Groenland.
Moi, je te parle. Mettons, je compare avec le premier mandat. J'ai pas été assez clair. Là. Dans le premier mandat, c'était un président fondamentalement quand même pacifiste. Là. La seule chose qui me vient en tête d'intervention militaire qu'il a faite, c'est quand il a clenché le général Kulemi.
Mais pour moi, pacifiste, j'utiliserais un autre mot, il voulait juste enlever tout ce qui coûtait extrêmement cher aux États-Unis, donc la présence militaire des États-Unis à de nombreux endroits, dans des conflits qui n'étaient pas ceux des États-Unis, mais qui étaient plutôt ONU et pacifiste. Si tu veux le dire comme ça, je vais là. Mais lui, ça coûtait tellement cher, il voulait ramener ses finances auprès de son pays, puis il voulait se charger de tous les investissements militaires à son profit. Puis je le vois un peu de même avec ce qui se passe dans l'Iran. Il y a probablement des choses qu'il veut aller chercher, là.
Bien, le premier mandat, je voyais vraiment ça dans un sens d'équité à ses yeux, de dire qu'il faudrait que les membres de l'OTAN en fassent plus. Pas nécessairement que les États-Unis en fassent moins.
Oui.
C'était comme une menace qu'ils utilisaient
pour que les autres investissent. C'était beaucoup ce qu'ils disaient aussi.
Là, maintenant, on est vraiment dans une dynamique avec l'Iran, parce que là, juste pour placer tout le monde, si vous n'avez pas suivi ce dossier-là, il y a déjà eu un deal par rapport à l'énergie nucléaire en Iran avec le président Obama. Donc là, à ce moment-là, on avait dit... Vous faites de l'enrichissement nucléaire là, avec l'uranium et tout ça. Puis là, on doute que vous allez peut-être aller vers l'arme nucléaire, ce qui serait quand même une catastrophe pour le Moyen-Orient. Donc, on va faire un deal, on va utiliser la carotte, on va dire « Prouve-nous là, que tu ne fais pas de recherche militaire, fais-nous visiter tes installations, sois transparent, puis en contrepartie, on va faire sauter les sanctions économiques. » Puis là, ce qui avait vraiment marqué les esprits, c'est qu'il y avait des centaines de millions, voire des milliards qui avaient été gelés de l'Iran par les États-Unis. Puis quand ils ont signé le deal, ben là, ils ont dit « ben ça, je te le redonne. Dans le fond, je te redonne tes milliards parce que je te les avais gelés à cause de la situation tendue sur le nucléaire. » Donc là, les gens ont dit « ah, on subventionne l'Iran. » En tout cas, c'était parti dans toutes les directions, mais Obama avait fait ce deal-là. Je te dis pas que c'est le meilleur deal de l'histoire, mais au moins, il y avait une prémisse, un encadrement. Là, Trump a cassé ce deal-là dans son premier mandat en disant « c'est le pire deal qui a été négocié, ça n'a pas de bon sens. » Là, depuis ce temps-là, il n'y a rien qui s'est passé vraiment concrètement avec l'Iran, mais c'est un pays qui est très déstabilisant pour le Moyen-Orient. Il finance beaucoup le terrorisme. On en parlait la semaine passée avec le Yémen. Donc, c'est sûr qu'il y a intérêt à essayer de leur calmer les nerfs et s'assurer qu'ils ne font pas d'armes nucléaires. Donc là, Trump s'en revient avec cette idée-là, dans une dynamique pour stabiliser le Yémen, comme on s'est parlé la semaine passée, protéger Israël aussi, parce que l'Iran et Israël, c'est des ennemis mortels, puis essayer d'avoir une espèce de plan de paix. Là. Il y a ce rêve-là, dans le fond, d'être un grand bâtisseur de la paix.
Parce que là, ça brasse. Là. Tu vois, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est arrivé dans les dernières minutes à la Maison-Blanche pour avoir un entretien avec Donald Trump, et on vient de l'informer que, avec ce qui se passe actuellement à la Maison-Blanche, il n'y aura pas d'entretien avec Benjamin Netanyahou. Donc, l'entretien a été annulé. Puis on n'a pas donné de plus de raisons.
Ouais. Eh bien, ça me surprend ça, parce que je m'attendais à ce qu'il sorte de là.
Ben, c'est un dossier prioritaire.
Oui. Puis tu sais, Trump a toujours affirmé sa proximité avec Israël. Je suis surpris, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que c'est pas le même contexte qu'avec Zelensky qui est sorti à grand coup de pied dans le cul. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Fait que c'est ça, tu sais, il prend sur ses épaules d'être un espèce de grand bâtisseur d'un Moyen-Orient juste et équitable et rentable. Tu sais, Gaza, on se souvient, là, son rêve d'en faire une espèce de Côte d'Azur avec ça. Là. Puis là, pour l'Iran, ben là, il veut négocier. Puis là, genre, relisais ce qui est connu, évidemment, on n'a pas tous les détails, mais par rapport à ce qui est prévu dans cette entente-là, puis il revient sur les mêmes bases qu'Obama, mais il va un petit peu plus loin. Fait qu'à sa défense, il dit « Moi, c'est pas juste le nucléaire, c'est les missiles balistiques. Je veux pas que tu en développes, fait que là, on va l'inclure dans le deal. Je veux m'assurer d'inclure dans ce qu'on dit là le financement du terrorisme. Donc là, si on fait un deal ensemble, puis je te donne les bonnes conditions, puis que je te pogne à financer des terroristes, ben là, le deal ne tient plus. » Puis il y a aussi le fait qu'il dit « Moi, les sanctions vont être maintenues jusqu'à preuve du contraire », alors qu'Obama, c'était l'inverse, c'était « Je lève les sanctions jusqu'à preuve du contraire ».
Ouais. Tu sais, ils vont peut-être se rencontrer, parce qu'il était à Maison-Blanche, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas, il y aura pas de conférence après leur rencontre, si rencontre il y a. Fait que ça brosse en tabarouette.
Mais Bibi, là, Netanyahou, il se fait pas mal bardasser en Israël aussi. Là. Il y a encore un membre de son cabinet, c'est vague, là, je l'ai lu en fin de semaine, là, mais qu'il y a eu des allégations de corruption. Là. Puis lui aussi, il s'est fait un peu salir dans les dernières années. Là. Fait que je sais pas, en tout cas, je pense pas que Donald Trump s'arrêterait à ça, mais il y a peut-être un contexte, un climat un peu compliqué avec ça. Là.
Exact. David Chabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Merci, merci.
Nous autres, on s'en va en musique. Les Cowboys fringants avec Plus rien sur Boulevard.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Marceau le midi.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Chez Desjardins Autocollection, en avril, nous avons des offres incroyables sur les camions. Conduisez le tout nouveau F-150 STX 2025 pour seulement 110$ par semaine en location 24 mois ou le F-150 Lightning 2024 en location avec des rabais jusqu'à 15 000$. Desjardins Autocollection sur la rue Marais à Vanier. Détail en concession.
À Québec.
Hey, salut, c'est Audrey. Le podcast Reg La Planche Backstage en est à son dernier épisode cette semaine. Les 5 épisodes de son podcast sont disponibles partout sur nos plateformes. Et le lundi 7 avril, ben, c'est la 2e saison de Sex Tape qui commence. Donc, pour le premier épisode, j'ai jasé avec ma co-animatrice, Mademoiselle V, qui nous confie son passé d'escorte et d'auxiliaire sexuelle, qui est un métier très peu connu au Québec. Rendez-vous lundi, 19h.
Une pr-